l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode d'Happy Boulot, le mag. Au programme, freelance cherche collectif. C'est l'état d'esprit dans lequel beaucoup des indépendants se placent. Ils ont besoin de travailler à plusieurs. C'est Jean de Roglaudre, le cofondateur de collectif.work, qui viendra nous expliquer l'émergence d'une nouvelle forme de travail alternative à l'entreprise. Freelance, oui, mais pas solo. Ensuite, on parlera des entretiens annuels. Est-ce que c'est bien le moment de négocier une augmentation de salaire? Et si votre entreprise n'a pas les moyens d'augmenter les salaires, quelles sont les alternatives? Peut-être, eh bien, les avantages en nature. Deux invités pour aborder ce sujet, Walid Atroubi, le directeur France de Hays, et puis Jérôme Proust, le directeur général de Glady. Et puis pour conclure, ce chiffre, 10% des salariés exposés à des risques de fatigue accrue. C'est le chiffre qu'il faut retenir d'une étude menée par l'Eco. Arthur Rérol, son directeur général, sera avec nous. Le travail hybride a déstructuré le temps de travail et ça a des conséquences, mais il y a des solutions. À tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Indépendant freelance, on s'intéresse à vous dans cet épisode d'Happy Boulot, le mag. Bonjour Jean de Roglaudre.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de collectif.work. Avec vous, on va prendre le pouls de cette partie de notre tissu économique, ces freelances qui ont envie d'être indépendants, toujours, par essence, au quotidien, indépendant mais pas solo. Expliquez-nous, dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir de l'étude que vous publiez en collaboration avec la banque Shine.
Tout à fait, donc avec notre partenaire Shine, donc la banque pour les solos indépendants, on a publié récemment une étude sur les collectifs de freelance, hein, qui est notre cœur de métier, et on s'est rendu compte qu'énormément d'indépendants avaient à cœur de collaborer en équipe. 9 sur 10 mentionnent désirer davantage travailler en équipe. Près de 35 000 collectifs ou équipes de freelance se sont formés au cours des 4 dernières années et c'est une tendance qui devrait s'accélérer dans les années à venir.
Alors on démarre cette émission avec vous parce que c'est quand même presque antinomique. Collectif de freelance, comment on explique à ceux qui nous écoutent et qui ont le préjugé que voilà, un freelance c'est solo, c'est une freelance c'est solo, ça travaille seul, etc. Comment on peut associer le mot collectif et freelance ou le mot équipe et freelance? Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, on s'est rendu compte, et c'est la raison pour laquelle on a créé Collectif il y a 2 ans maintenant, que de plus en plus d'indépendants avaient à cœur de travailler en équipe de manière à monter sur des projets plus ambitieux, plus large, tout en tirant profit d'un cadre de travail plus enthousiasmant. Et c'est dans cet esprit que se sont créés énormément de collectifs de freelance, mais aussi des squads, des studios d'indépendants, des communautés d'indépendants, vraiment désireux de travailler sur des projets complets. Et la réponse du collectif leur permet de conserver la souplesse et la liberté inhérente au travail indépendant, couplé avec la force de frappe et le niveau de professionnalisation d'une entreprise traditionnelle.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire un collectif? Par exemple, par rapport à un groupement économique, vous voyez, par exemple, beaucoup d'avocats, par exemple, qui se mettent à 2-3, même s'ils ne partagent pas leur clientèle, ils vont mettre en commun leur bureau, etc. Quelle va être la différence de ces collectifs de freelance?
Le collectif de freelance en tant que tel n'a pas d'existence légale. C'est simplement l'intention de faire un ou plusieurs projets ensemble. Et sur notre plateforme, les freelances viennent créer un ou d'ailleurs plusieurs collectifs. Et pour cela, ils se cooptent entre eux, viennent former une offre de service et répondent à des missions ensemble.
Vous nous disiez, hein, plus d'un tiers des freelances qui ont comme projet de rejoindre une collectivité, un collectif. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est la crise sanitaire? Est-ce que c'est l'évolution du monde du travail plus généralement? Qu'est-ce qui explique ce besoin de se réunir?
Alors, il y a plusieurs choses. Dans l'étude qu'on a du coup produite avec Shine, on s'est rendu compte que le premier mobile dans la réunion des indépendants en collectif, c'est vraiment de pouvoir travailler sur des projets de bout en bout. Donc, typiquement, le développement d'une application de A à Z, d'un site internet, d'une étude. Mais c'est aussi des raisons comme le fait de pouvoir se former auprès d'autres indépendants qui travaillent souvent seuls, le fait de pouvoir travailler à plusieurs et le fait de pouvoir paralléliser plusieurs projets.
Alors, paralyser de plusieurs projets, ça veut dire aussi peut-être pouvoir adresser des projets plus ambitieux.
Tout à fait.
Donc, en fait, on est freelance, mais on se retrouve en compétition avec des sociétés plus structurées.
Exactement. En fait, la promesse de collectif, c'est de permettre à des indépendants, des solo-entrepreneurs, d'accéder à une nouvelle typologie de projet traditionnellement réservée aux agences et aux entreprises de services.
Et du point de vue client, comment vous avez dit, ces collectifs, ils n'ont pas d'existence légale, c'est presque du management. Comment on s'y retrouve en tant que client? Comment on se protège du risque éventuel de, voilà, on travaille avec un freelance, mais en même temps, on bénéficie d'un collectif, mais qu'est-ce qu'on a comme garantie?
Et c'est aussi la raison pour laquelle on a créé Collective. Nous, on est du coup l'entité, l'entreprise as a service, l'entreprise partagée de 1000 collectifs aujourd'hui, qui va permettre aux clients d'avoir un seul interlocuteur, un seul contrat, un seul devis pour une multitude de talents.
Oui, une sorte de plateformisation.
Exactement.
Alors, dites-nous, quels sont les profils peut-être de ces freelances qui ont besoin de se retrouver en équipe? Est-ce qu'on retrouve inévitablement beaucoup de profils dans la tech? Est-ce qu'on trouve des freelances dans tous les secteurs?
Alors, notre mission, c'est vraiment de permettre à n'importe quel indépendant, de n'importe quel corps de métier, dans n'importe quelle géographie, de former ou rejoindre un ou plusieurs collectifs. Aujourd'hui, on a une majorité de freelance dans le monde du digital, donc des développeurs, des designers, des profils plutôt autour du marketing digital, des graphistes et des consultants. On commence à avoir aussi des collectifs d'avocats, des collectifs d'architectes paysagistes. Et notre mission, c'est vraiment de pouvoir permettre à n'importe quel indépendant de collaborer et travailler en équipe.
Comment ça se passe? Comment les collectifs se créent? Est-ce qu'il y a un système de cooptation, de bouche à oreille?
Tout à fait.
Qu'est-ce qui fait qu'on s'agglutine?
Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte qu'une grande majorité des indépendants, et encore une fois avec l'appui de Shine, avaient beaucoup de gens dans leur réseau. Et le focus initial a été de permettre aux freelances de convier les gens de leur réseau pour former une première équipe. Mmh. Aujourd'hui, on commence à étudier l'opportunité de permettre à un solo freelanceur qui n'a pas forcément de réseau de rejoindre et d'être coopté au sein d'un collectif existant.
Comment on sort d'un collectif?
On peut se faire exclure si, par exemple, on ne respecte pas certaines règles édictées au sein du collectif.
Est-ce qu'on peut appartenir à plusieurs collectifs à la fois?
Tout à fait. Donc, ouais. On a 10% des freelances chez Collective qui sont dans plusieurs collectifs. On a même, je crois, un freelance qui est dans 6 collectifs. Et donc ça, encore une fois, c'est pour permettre aux indépendants d'avoir plusieurs offres de services et des offres plutôt pluridisciplinaires que des offres très généralistes.
Est-ce que le parallèle de ce besoin de collectif, il se traduit de manière très matérielle? Est-ce que vous observez de votre point de vue de plateforme que les freelances, par exemple, se retrouvent plus dans des tiers-lieux, que par exemple les coworks sont des lieux qui accueillent de plus en plus, et que quelque part il y a eu un effet vertueux parce que les gens commençaient à se retrouver dans des espaces collectifs, du coup ils se sont dit qu'ils pouvaient créer des collectifs?
Exactement, alors ça fait partie un petit peu de notre plan de jeu, mais dans plusieurs années, de plus en plus d'indépendants nous font la demande de pouvoir se retrouver dans des lieux. Et à cet égard, on organise souvent des événements pour leur permettre de se retrouver entre eux, mais aussi avec nous, et puis de se rencontrer aussi entre différents collectifs.
Voilà, peut-être l'émergence d'une nouvelle forme de travail alternative à l'entreprise, mais on le voit, assez légère, assez agile. Et j'espère que, Jean, vous continuerez à nous aider à prendre le pouls de ces freelances, de ces indépendants qui aussi ont besoin, on le comprend, de combattre l'isolement, mais aussi d'apprendre de leur père, il y a cet effet aussi collectif, et peut-être voilà, de pouvoir adresser de manière plus compétitive des projets plus ambitieux. Je vous renvoie vers cette étude, où est-ce qu'on peut la retrouver?
Alors sur notre site internet collectif.work/collectif-study.
Voilà, c'était Jean de Rougelaudre, le cofondateur de collectif.work, avec nous pour démarrer cette émission. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Si vous êtes salarié, c'est sans doute la période des entretiens annuels dans votre entreprise. Si vous êtes manager aussi, alors on va vous donner quelques bons conseils. Et on va réfléchir avec nos deux invités sur ce moment important de l'année, sur comment on fait, eh bien, pour peut-être demander un peu plus d'argent ou demander d'autres choses pour rester motivé dans un marché de l'emploi sans doute indéniablement compliqué. Deux invités. Le premier, c'est Walid Atroubi. Bonjour Walid.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de Haze France et j'accueille Jérôme Proust. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Le directeur général de Glady. Un acteur qui m'a donné des chiffres, un acteur qui incarne le secteur des avantages en nature pour parler de cette potentielle augmentation que vous allez demander pendant votre entretien annuel, ou qu'on va vous demander. Alors Walid, pour démarrer, donnez-nous les facteurs, ce qu'on peut demander, comment on peut justifier une augmentation de salaire. Qu'est-ce que vous observez chez Haze?
Alors, on peut la justifier de façon assez simple durant cette période, parce qu'on est passé d'un marché de clients à un marché de candidats. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une réelle pénurie de talents, et donc les clients, les entreprises s'arrachent les candidats pour les attirer et surtout également pour les garder. Donc on parlait de cette période qui est une période de renégociation salariale, et donc c'est le moment effectivement de mettre intelligemment en concurrence eh bien, l'entreprise dans laquelle on est et les concurrents qui recherchent aujourd'hui des nouveaux talents.
Qu'est-ce que je vais mettre en avant dans mon entretien annuel pour justifier une augmentation de salaire ?
Bah, déjà, je veux mettre en avant ma technicité, le fait qu'aujourd'hui, c'est très recherché sur le marché et qu'on ne trouve pas. Ma fiabilité, puisque je suis dans l'entreprise depuis un certain temps et je connais un certain nombre de choses et certains fonctionnements, et que donc il est préférable pour tout le monde, dès lors où je me sens bien dans l'entreprise, de continuer à progresser à l'intérieur.
Bon, l'expertise, la fiabilité, tout ça, voilà, pour justifier de demander de l'argent. Est-ce que l'argent, vous sentez, notamment via ce que vous captez comme données chez Hays, que c'est le sujet de rétention ?
C'est le sujet, effectivement, avec tout ce qui se passe autour. On parle quand même d'une inflation qui est extrêmement importante, tout qui a augmenté autour. Et donc, il faut également que les rémunérations puissent suivre pour que les gens puissent joindre les deux bouts ou encore avoir une vie un peu plus agréable.
Qu'est-ce que c'est les facteurs les plus importants pour attirer, donc quand on a des nouveaux candidats, et en même temps retenir les collaborateurs, selon vous, Wahid ?
Là, alors, on parle souvent de rémunération. Effectivement, encore une fois, la rémunération est une part importante. Ça représente 59% dans la prise de décision d'un collaborateur. Mais maintenant, il y a également, et c'est un facteur qui n'est pas nouveau, mais qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la QVT, donc la qualité de vie au travail. Et donc, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, dans une période où un peu morose, où il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et en France en particulier. Les gens ont besoin d'avoir un certain confort et se sentir en confiance et à l'aise. Donc, ce qu'on peut mettre en avant, c'est la qualité de vie qu'on va avoir et le fait de se retrouver dans un poste où on est à l'aise, où on a la confiance de notre hiérarchie, où le management est bienveillant, où on arrive à s'épanouir.
On sent que l'entreprise est de plus en plus responsabilisée autour du thème, du mot-clé de pouvoir d'achat. Vous, Jérôme Proust, c'est un peu votre domaine parce que à la tête de Glady, vous êtes, comment le dire, l'incarnation du entre autres du chèque cadeau, c'est-à-dire de l'avantage salarié en dehors de l'augmentation de salaire, si je puis dire. Est-ce que vous sentez qu'un service comme le vôtre est particulièrement attirant en ce moment pour les entreprises qui, évidemment, sont capées dans leur capacité à augmenter, à donner du cash à leurs salariés ?
Oui, tout à fait. Et je pense que Walid l'avait très bien dit dans le début de ta réponse, il y a la partie performance individuelle. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on parle de marque employeur, de QVT. Et aujourd'hui, la marque de l'entreprise qui souhaite incarner un système de valeurs et une vision doit se traduire d'un point de vue collectif. Et c'est pour ça que les employeurs aujourd'hui activent de plus en plus des acteurs comme Glady pour appuyer sur des chèques cadeaux, sur des chèques restaurants, sur aussi le sport avec l'accompagnement sur une activité sportive, sur la famille avec des places en crèche. Et donc on voit que les employeurs vont maintenant de plus en plus au-delà du minimum légal, comme aussi les transports publics, pour en fait accompagner un modèle social qui va au-delà de la performance individuelle, mais qui incarne en fait un collectif au niveau de l'entreprise.
On le sent quand même, beaucoup de Français salariés, une fois de plus, c'est à cette catégorie des travailleurs qu'on s'intéresse nécessairement aujourd'hui, ont quand même envie d'avoir plus d'argent. On a l'impression que c'est quand même le point de crispation, ce cash, cette hausse d'augmentation. Bon, pour simplifier, si on augmente quelqu'un de 1 000 euros aujourd'hui, en net dans sa poche, il y a 320 euros. Bon, tout le monde n'est pas évidemment augmenté de 1 000 euros, mais ce chiffre permet de faire le calcul dans sa tête. Comment on continue à évangéliser le fait que l'augmentation de salaire, ça n'est pas la solution à tout ? Parce que pour 1 000 euros brut, c'est un tiers dans votre poche.
Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on est sur un marché où le gouvernement français, depuis des années, instaure des mécanismes de défiscalisation pour accompagner les employeurs à redonner du pouvoir d'achat avec des exonérations de charges patronales et salariales sur des chèques cadeaux, des chèques restaurants, des chèques CESU et d'autres comme par exemple le télétravail avec l'accompagnement d'une prise en charge des frais dans le cadre du télétravail. Tous ces mécanismes viennent flécher des usages. En revanche, on observe que des grandes entreprises avec des personnes qui sont ce qu'on appelle people experience ou même dotées de CSE sont assez bien informées de l'ensemble des dispositifs. En revanche, dès qu'on va dans des entreprises plus petites, où il y a souvent juste l'expert comptable qui vient orienter et former le dirigeant, tout de suite, on voit une forme de pauvreté de conseils, parce qu'en fait, même les experts comptables, ou en tout cas tout ce qui gravite autour des dirigeants ou des dirigeantes, ne sont pas informés de l'énorme avantage fiscal qu'on peut à redonner du pouvoir salarial au niveau de l'entreprise.
Et quels sont les avantages, Walid, que vous observez, qui sont devenus standards ? Est-ce que, par exemple, une bonne assurance, je sais pas, un véhicule de fonction, ce sont encore des choses qui créent un peu une étincelle ou qui rassurent les salariés ou qui peut les motiver ? Est-ce qu'il y a des standards aujourd'hui, en 2023 ?
Juste pour revenir à ce que vous disiez, tout cela, c'est que on parlait de 1 000 euros tout à l'heure d'augmentation, mais pour qu'on puisse augmenter de 1 000 euros, l'entreprise va en payer 1 500 pour que du coup la personne puisse être augmentée 1 000 euros et puis finalement avoir 320 euros. C'est ça la réalité. Et donc, comme l'a très bien dit également Jérôme, c'est que les avantages, on parlait Jérôme, sont aujourd'hui pour la plupart exonérés et donc permettent de pouvoir augmenter
finalement. Oui, les chèques culture par exemple, c'est 100% d'exonération URSSAF.
Oui. Et donc on peut augmenter finalement nos salariés sans augmenter forcément derrière nos charges. Donc par rapport à ce dont vous parliez, les avantages concrets qui plaisent, effectivement, alors on a aujourd'hui l'augmentation de la part de mutuelle qui est prise par les entreprises, parce que c'est quand même un poste de coût qui est assez important. Mm-hmm. On sait que la voiture, normalement, c'est le deuxième poste le plus important après le loyer, et donc également les salariés en sont friands. On parlait de la salle de sport tout à l'heure, les salariés sont aussi friands de ça, parce que à défaut de ne pas rentrer, d'avoir une augmentation de salaire qui permet de gagner plus d'argent, le principal, c'est de ne pas en sortir beaucoup. Et donc, finalement, si on a deux avantages, on en sort moins. Donc, ça vient compenser cette augmentation qu'on n'a pas à la hauteur de ce qu'on veut.
Est-ce que vous sentez que le fossé se creuse entre les grandes entreprises et les PME, avec comme sous-jacent cette hausse de salaire forcément limitée ? Est-ce que vous percevez que c'est encore plus compliqué, c'est encore de plus en plus différent entre les mentalités de grands groupes et ce qu'on peut faire dans les grands groupes par opposition à ce qu'on peut faire dans les plus petites entreprises?
Il y a toujours une mentalité qui est différente, mais il y a une chose qui est importante de dire, c'est que les entreprises qui sont plus petites, pour attirer, au départ, payent parfois plus cher que les grands groupes, parce qu'ils doivent faire la différence pour attirer. Un grand groupe va attirer sur son nom, mais un petit groupe ne peut pas le faire et donc va compenser par autre chose. Et donc souvent, les salaires dans les petites entreprises sont parfois plus importants au démarrage que dans les grandes. Donc à ce niveau-là, je pense que les mentalités dans les petites entreprises sont aussi flexible, parce que plus petite, donc plus mobile, et parfois capable d'offrir plus facilement des avantages en nature que des grands groupes.
Vous ressentez la même chose du point de vue de Gladys ?
Alors, je ne pourrais pas donner d'analyse de marché. Je sais qu'en revanche, il y a une forme d'asymétrie dans notre portefeuille client. On a effectivement une majorité de grands comptes, de grands noms en termes d'employeurs sur le territoire national. Inversement, effectivement, c'est le marché des PME est un peu moins bien équipé, entre guillemets, si je peux me permettre ce terme, en termes d'avantages salariés. Je voulais juste rebondir sur un point, c'est qu'au-delà aussi des avantages salariés, il y a aussi la raison d'être de l'employeur. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on parlait de la voiture de fonction, qui est évidemment un grand totem, en fait, on pense à des populations, il y a beaucoup de déplacements comme les commerciaux. En revanche, aujourd'hui, les employeurs ont une sensibilité qui viennent être accompagnés par une logique de RSE. Et donc, on a vu avec l'émergence, il y a quelques mois, du forfait mobilité durable, on va venir
rappelez-nous
accompagner
le concept de ce forfait, là.
Alors, le forfait de mobilité durable, c'est l'accompagnement par l'employeur jusqu'à 600 euros par an pour toutes les alternatives à mobilité douce, c'est-à-dire le vélo, les trottinettes, même les transports en commun, pour arriver à justement envoyer des déplacements très individuels en voiture vers un déplacement qui en plus améliore la santé des salariés qui se déplacent en faisant du vélo quotidiennement. Et ça, justement, l'achat d'un vélo, son entretien ou la trottinette, c'est une volonté du gouvernement qui l'avait mis en place, justement, de venir accompagner également le portefeuille, mais aussi la santé en termes de prévention des salariés.
Ouais. Après, le forfait mobilité durable, et je reprends plusieurs témoignages que les auditeurs et les auditrices m'écrivent, ça concerne quand même les gens qui vivent dans les grandes villes. Pour les 70% des Français et des Françaises qui prennent leur voiture pour aller au travail, on comprend l'enjeu qu'il y a derrière continuer à subventionner le véhicule. Jérôme, est-ce que vous avez en tête un avantage à mettre en place dans l'entreprise qui est hyper clé en main et qui est sous-exposé, que les entreprises n'ont pas en tête ?
Je pense que c'est les deux principaux, c'est le chèque resto et le chèque cadeau. Aujourd'hui, ce sont deux avantages qui n'existent pas ou qui sont assez peu utilisés sur certains segments d'entreprises à taille plus petite, mal informée. Donc c'est ça le message que j'aimerais passer. Quand on n'a pas de restauration collective, effectivement, c'est un bon levier pour redonner le pouvoir d'achat à effet immédiat.
Et vous, Walid, peut-être pour conclure, ACE vient de publier une grande étude sur la rémunération avec des grandes perspectives pour 2023. Un chiffre, un enseignement que vous aimeriez qu'on retienne?
Je vais en donner un seul. Donc, je vais expliquer que ce qu'on prévoit cette année, c'est une augmentation globale. Alors, je prends tous les métiers parce que l'augmentation ne sera pas la même, mais de 5% sur les rémunérations, ce qui va quand même donner une augmentation assez importante pour différentes catégories. Encore une fois, certaines un peu plus, certaines un peu moins. Mais l'année va continuer en tout cas à permettre, va donner la possibilité d'augmenter encore son salaire de façon assez intéressante.
Donc c'est un message plutôt positif, c'est-à-dire que vous êtes salarié, en gros, vous allez statistiquement connaître une augmentation.
Exactement.
Bon, voilà, on espère que ça peut-être pourra apaiser quelques-unes des angoisses, évidemment, qui sont liées au contexte inflationniste. Ceci dit, 5%, ça restera en dessous de l'inflation. Donc voilà, vous l'aurez compris, au menu des entretiens annuels, négociations pourraient augmenter, mais aussi, voilà, les avantages en nature qui peuvent être une alternative, tant du point de vue employeur que du point de vue salarié, à une augmentation sonnante et trébuchante en cash. Merci beaucoup à tous les deux, Walid Atroubi, directeur ACE France, et puis vous, Jérôme Proust, vous êtes directeur général de Glady. Restez avec nous, on a commencé à parler de QVT, hein. Voilà un moyen de fidéliser ces équipes, et bien on va continuer à en parler avec notre dernière invitée. À tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Business Case.
Notre dernière invitée, figurez-vous, a mené un travail de fond, un état des lieux des pratiques numériques en entreprise. Et votre constat, Arnaud Hérol, directeur général de l'Eco, est plutôt alarmant. 10% des salariés qui sont surfatigués.
Oui, disons qu'ils sont exposés en tout cas à une surcharge connective liée à l'hyperconnexion. Je pense que chacun peut le ressentir parfois. L'hyperconnexion, c'est quoi? C'est le fait d'élargir ses plages de travail durant lesquelles on envoie des emails, c'est le fait d'enchaîner des visios, c'est le fait parfois pendant ces réunions aussi d'avoir une autre activité, répondre à ses mails ou travailler sur d'autres documents. Tout ça en fait crée une surcharge, d'autant qu'on a pu mesurer que les collaborateurs ne prenaient pas assez de pauses entre ces différentes activités.
Alors vous avez fait des profils types, hein. Vous avez analysé et caractérisé des profils types, notamment, vous l'aurez compris, le profil de l'hyperconnecté et ou et eux. Qui est cette personne hyper connectée? Quel est son profil type?
Alors, elle représente 10% effectivement de la population du jeu de données. C'est 20 000 utilisateurs des activités, deux années d'activité, pardon, qu'on a analysées avec Cogix, notre partenaire, qui est un cabinet expert en neurosciences. Cet hyper connecté, on l'a caractérisé par le fait qu'il envoie 9 jours par mois des mails en dehors des plages usuelles de travail.
Donc, 8h-20h. Avant 8h et après 20h.
On est allé large, hein, 8h-20h. Et plus de 15 réunions en dehors des plages 8h-midi, 14h-18h sur le trimestre. Voilà. Donc, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ce n'étaient pas des pics d'activité ponctuelle qui pouvaient être suivis de temps de récupération. Non, c'est bien un enchaînement continu et un maintien, finalement, à un niveau de charge cognitive qui est important.
Alors, fatigue cognitive accrue, ce serait le terme quasiment médical qu'il faut utiliser pour décrire cet état, les conséquences de cette hyperconnexion. Est-ce que, d'un point de vue de l'entreprise, de l'employeur, du manager, vous pouvez nous lister les dangers de cette hyperconnexion? Quelles sont les conséquences sur le salarié?
Alors les conséquences, les premières, ça peut être une baisse d'efficacité, une baisse de motivation, perte de goût au travail. Bien sûr, cette fatigue, elle peut ensuite avoir des conséquences sur la santé et ça peut aller jusqu'à des burn-out dans les pires situations.
Donc c'est l'étape d'avant, le burn-out, si on résume.
Ouais.
Et aujourd'hui, est-ce que vous percevez, vous sentez que c'est devenu un objet de surveillance dans les entreprises? Est-ce qu'on y fait attention? Est-ce que le phénomène s'est accéléré avec la crise sanitaire? Est-ce que le travail hybride, le télétravail ont accéléré tout ça?
Oui, alors on est un peu sur un phénomène, ce qu'on n'arrive pas à mesurer, on a du mal à le quantifier et du coup ça compte moins. Donc c'est un peu ça le problème de ce sujet-là. Je pense que beaucoup d'entre nous peuvent le ressentir, au moins par période. Et effectivement, le travail hybride a déstructuré l'organisation du travail. Avant, pour caricaturer un peu les choses, le temps de travail était délimité par notre temps de présence dans les murs de l'entreprise. Aujourd'hui, on a gagné en flexibilité, mais du coup, on a étendu nos plages de travail. Et parfois, c'est pas uniquement des phénomènes structurels liés à l'organisation, ça peut être aussi des phénomènes individuels, de comportement. On se rend plus compte qu'on a du mal à couper son temps de travail, enfin à délimiter son temps de travail par rapport à son temps personnel, et ça induit également de la surcharge pour le collaborateur.
Alors Arnaud, pour conclure, est-ce que vous avez une bonne pratique ou un conseil à donner, justement comment on fait quand on est en entreprise, quand on est manager RH en charge d'une équipe, pour surveiller et ne pas tomber dans la zone rouge? Quelle est la bonne pratique que vous recommandez?
Je pense que la première chose aujourd'hui, ça va être d'être capable de mettre en place des indicateurs avec la data pour arriver à compléter les baromètres sociaux. Et le deuxième élément, on a vu que c'était la réunion qui était un peu au cœur du problème. C'est arriver, on sait, la réunionite, hein, on en parle depuis des années et des années, d'arriver à questionner la façon dont on utilise la réunion au sein des entreprises à l'ère de cette hyperconnexion.
Voilà, questionner notre rapport à la réunion. Ouais. C'est ça que vous nous dites. Voilà, un travail hyper intéressant. Hein. Je salue l'étude que vous avez faite, puisque c'est quand même 2 ans de travail et 20 000 utilisateurs qui ont été sondés. Voilà, vraiment pour objectiver quelque part les rythmes et les rythmes de travail et puis la transformation de notre quotidien avec ce télétravail et ce travail hybride. C'est intéressant et c'est un sujet médical en plus d'être un sujet de l'entreprise. Et donc je vous renvoie à cette étude. Où est-ce qu'on peut la trouver?
Sur notre site internet, sur l'éco.fr.
Voilà, l'hyperconnectivité, un sujet de qualité de vie au travail. Vous avez des questions, vous avez des réactions, vous pouvez nous écrire. Évidemment, on continuera à intégrer vos réactions et vos témoignages dans cette émission Happy Boulot qui s'achève, mais que vous pouvez retrouver évidemment en podcast et en replay, en vidéo à la demande sur nos différentes plateformes, évidemment, et puis sur le site de BFM, mais aussi en podcast hein, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. La semaine prochaine, on sera là, évidemment. Merci à toute l'équipe et je vous souhaite une très bonne fin d'écoute.
BFM Business, Happy Boulot, le mag.